Bonsoir, c'est Evelyne pour le podcast Trouver dans les rayons. Ce soir, je vais vous parler de la bande dessinée L'une d'elles. C'est une bande dessinée qui a été dessinée et écrite par l'autrice Una. La version originale a été publiée en 2015 en Angleterre sous le titre Becoming Unbecoming. Et plus tard, il y a une version française, une traduction, qui a été publiée en 2018. C'est une bande dessinée qui parle d'un sujet assez difficile. J'en parlerai pas comme super gros en détail. J'essaie de faire un premier épisode où j'essaie d'en parler comme vraiment plus en détail, mais c'était trop intense. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une présentation comme un peu générale. Je n'irai pas dans les détails pour que tout le monde puisse écouter l'épisode sans avoir peur que ça devienne trop intense. Donc, je vais présenter la BD, tout ça, puis après ça, ce sera à vous de juger là, si vous vous sentez capable de la lire, là, si jamais vous voulez la lire, là, mais au moins vous allez avoir une idée de c'est quoi cette bande dessinée-là. Okay. Donc, oui, avertissement de contenu difficile, c'est une bande dessinée qui discute d'agression sexuelle, d'attaque, de violence envers les femmes, là, de meurtre, tout ça. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas trop aller dans le détail, trop comme ce que j'ai envie que tout le monde puisse écouter l'épisode. Puis je sais que c'est un sujet difficile, en tout cas. Donc, je vais vous lire le résumé à l'arrière du livre là, pour vous donner comme une introduction sur le sujet, là, comme il faut. Entre 1975 et 1980, l'éventreur du Yorkshire a semé la panique en Angleterre en s'attaquant à des femmes isolées, assassinant 13 d'entre elles. Una, qui avait 10 ans en 1975 et vivait à proximité, fut, elle, victime à plusieurs reprises d'agressions sexuelles, jusqu'à son entrée dans l'adolescence. Retraçant son histoire personnelle et mettant en lumière la très large impunité dont bénéficient les hommes coupables de féminicide et d'agressions sexuelles, Una explore ce que signifie grandir dans une société qui ne remet jamais en question la violence masculine et où les femmes victimes de ces violences doivent elles-mêmes en payer le coût. Donc, dans sa bande dessinée, elle raconte deux choses. Il y a comme deux trames principales. Il y a tous les événements autour de l'éventreur du Yorkshire. Il y a cette trame-là qui est expliquée, qui est racontée. Puis, il y a aussi une autobiographie qui discute de elle, de sa jeunesse, de son enfance, qui raconte beaucoup aussi, qui se replace comme dans le contexte historique des années 70-80. Puis, il y a beaucoup de... Elle raconte beaucoup d'anecdotes aussi sur la banalité du quotidien, un peu comme... Mais tout le temps comme en remettant ça en contexte avec les événements qui sont produits du tout. Puis elle raconte aussi les agressions sexuelles qu'elle a subies. Mais elle ne veut pas comme raconter ça en détail. C'est tout le temps comme... elle met en place, elle raconte comment les choses comme vont arriver, mais elle tire le voile devant l'agression. Ça, on ne voit pas ça. C'est pas montré, c'est pas raconté. Après ça, on en discute. Elle discute des conséquences, tout ça. C'est intense. Hein. C'est ça. Puis il y a comme un parallèle. Qu'est-ce qui est vraiment intense? C'est ça, c'est que ces choses-là, ces événements-là, ces agressions-là lui arrivent en même temps, qu'il y a comme tout ce contexte-là social avec les attaques de l'éventreur du Yorkshire qui ont duré quand même longtemps. Puis que tu sais, ça c'est comme devenu quelque chose qui a comme teinté toute l'expérience de plusieurs personnes, de leur communauté, tout ça. Donc, ces attaques-là, vu que ces attaques-là ciblaient principalement les femmes, il y a eu un climat de peur qui s'est installé, tu sais. Puis c'est surtout les femmes, les filles qui ont eu à gérer ça, tu sais, à porter le poids de faire attention quand elles sortent, tout ça, tu sais, c'est comme si c'était elle qui devait se responsabiliser de ne pas se faire attaquer. Tu sais. Fait qu'il y a ça. Puis il y a aussi comme une espèce de... de trame narrative qui s'est installée, tu sais, parce que les premières victimes, c'était comme des femmes qui étaient comme marginales, qui étaient un peu dans la pauvreté, qui étaient dans la pauvreté, qui avaient peut-être des difficultés personnelles, tout ça, tu sais, c'était des personnes problématiques, entre guillemets, là, je veux dire, tu sais, c'était... Puis, à cause que certaines, comme, buvaient ou sortaient, ou comme... T'sais, ils ont été classés premièrement comme ayant des mœurs légers. Puis ça, il y a eu comme un glissement de sens puis de perception qui s'est en allé vers comme quoi que les femmes, que des victimes, là, comme si c'était des prostituées. T'sais. Puis les femmes qui rentraient pas, les victimes qui ont survécu, mais il y a eu quelques victimes qui ont survécu, mais que c'était comme. Il y en a une là-dedans que c'était comme pas une. C'était comme une jeune fille de bonne famille, en guillemets. Là. Fait que les policiers n'étaient pas capables de rentrer dans la trame narrative qui s'était construite, que l'éventreur attaquait des prostituées. Puis donc, ils ont ignoré son témoignage. Puis elle avait vu son visage, tout ça. Elle avait fait un portrait robot, comme très précis. Mais parce que ça ne marchait pas dans l'espèce de narratif qui était construit là, autour de ça, c'est. Ça a été ignoré. Enfin, elle discute beaucoup de tout ça, de comment le regard de la société, de la culture, des médias, la culture des policiers, tout ça, comment que ça a influencé cette enquête-là, tu sais, comment que ça a comme... Il y a eu comme une interaction forte là, au niveau de tout ça, au niveau culturel, de, tu sais, il y a des choses que les gens refusaient de percevoir ou qui voulaient ignorer, ou, tu sais, il y avait comme... Tout ce contexte-là socio-culturel autour de ces événements-là, de la manière qu'elle en discute, qu'est-ce qu'elle raconte, ses observations sont vraiment intéressantes. Là. Ça rejoint beaucoup là, qu'on discute plus récemment, là, qui est la culture du viol, c'est-à-dire une culture qui excuse et qui permet l'avènement du viol. Là. C'est sûr que c'est intense, là. Puis ça, tu sais, je disais ça par petits morceaux là, parce que c'est prenant tout ça. Puis mais tu sais, toute la partie de l'enquête là, sur l'éventreur, c'est pas comme raconté comme un truc d'intrigue policière du tout. Là. C'est vraiment plus raconté au niveau comme de l'impact que ça avait sur la communauté, puis c'est ça, là, comment c'était perçu socialement, tout ça. Puis, en tout cas, puis les errances de l'enquête, pour comment c'est arrivé, tout ça. En tout cas, c'est ça. Puis c'est sûr que ça l'a eu comme, c'est ça, ça l'a créé comme un climat de peur, tout ça. Puis elle a vu comment les gens réagissaient par rapport à ça. Puis elle a comme intégré ça en elle, tu sais. Puis après ça, elle, quand elle a été agressée elle-même, tu sais, ça y a fait... C'est sûr que ça a contribué au fait qu'elle a gardé le silence, tout ça, puis qu'elle a... En tout cas, c'est sûr que c'est une situation très complexe. Hein. Puis elle parle aussi de comment qu'elle vit les changements, tu sais, à l'adolescence, tout ça, son corps qui change. C'est là qu'il y a les dessins d'insectes, là, qui sont vraiment comme... touchant aussi avec les arbres, puis ces choses-là. Puis aussi, elle parle à un moment donné comment que elle a été étiquetée comme une salope. Puis elle parle de la définition de c'est quoi être une salope, puis comment c'est dur pour une femme de pas être classée salope, un coup qu'on t'identifie comme ça. Là. Puis, fait qu'il y a beaucoup de... ta réflexion là-dessus aussi, là, que j'ai trouvé très intéressante. Puis, je suis en train de feuilleter le livre en même temps que je s'en parle. C'est ça aussi, c'est que tu sais, c'est comme tout le temps des petits morceaux de 4 pages, des fois 2 pages, mais des fois un peu plus, qui racontent comme, qui font une réflexion sur un aspect de ces choses-là. Fait que c'est une bande dessinée très dense. Tu sais, il y a beaucoup de matériel. C'est comme, ça fait, t'es tout le temps comme, tu lis 2-3 pages, puis là, tu te mets, faut que tu te digères un peu, puis tu réfléchis, c'est qu'est-ce que t'as lu, parce que, tu sais, ça t'emmène tout le temps dans des réflexions, là, intenses à toutes les 4-6 pages. Là. Fait que, C'est aussi pourquoi c'est pas évident, je trouve, d'en discuter. C'est pas facile. La bande dessinée discute aussi d'intimidation, parce que c'est sûr que le fait d'être étiqueté salope, tout ça, c'est de l'intimidation, là. C'est les autres personnes qui utilisent ces mots-là pour l'intimider, pour la faire taire, pour la rendre non valide. Fait qu'il y a ça, il y a ces réflexions là-dessus aussi. Puis, elle discute aussi de ses visites chez le psychologue, tu sais, comment que garder toutes ces choses-là enfouies en elle, comment qu'elle n'arrivait pas à parler, à s'exprimer, puis qu'elle faisait juste comme ressentir, tu sais, d'exprimer la tristesse, parce qu'elle était tout le temps triste, déprimée, tout ça. Fait que les gens ne comprenaient pas pourquoi, tu sais, ils ne savaient pas d'où que ça venait, fait que ça faisait beaucoup d'aliénation. Ça faisait que les gens n'arrivaient pas comme à la comprendre, puis, tu sais, comme... Puis, les gens n'arrivaient pas comme à catégoriser son problème. Ça fait que ça les dérangeait, puis les gens comme s'éloignaient d'elle ou l'éloignaient d'eux autres même. Tu sais. Puis, donc, il y a cette réflexion-là aussi sur quand t'es étiqueté comme étant comme déprimé ou, tu sais, comme instable ou... pas instable, mais plus comme d'avoir des émotions, puis que ces émotions-là, les gens ne sont pas capables de se les expliquer. Fait qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils étiquettent comme la personne, comme étant comme malade, tu sais, comme c'est, ouais. Fait qu'il y a des réflexions là-dessus aussi, puis comme qu'elle disait à un moment donné, c'est ainsi, je devins un témoin non fiable et une parfaite victime. T'sais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme déclare, les gens ont comme une perception d'elle qui est comme ah, elle est trop émotive, c'est pas rationnel sa peine, c'est pas rationnel ses émotions. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, c'est pas fiable. Fait que, bon, c'est ça. Ouais, c'est une partie que j'ai trouvée très intense et difficile. Ça m'a rejoint sur certaines choses au niveau de ça. C'est pas du tout la même chose, là, mais tu sais, quand t'es dans le garde-robe, t'as tellement d'émotions et de choses que t'arrives pas à expliquer, que t'arrives pas à verbaliser, que t'arrives pas comme à mettre en mots. Surtout si t'as pas le vocabulaire, tu sais, si t'as pas comme les outils pour le faire. Fait que tu te ramasses, le fait de pas pouvoir parler, c'est ça, tu te ramasses tout le temps comme, juste comme à montrer comme la réaction de tes émotions, de ton intériorité, tout le temps comme de la tristesse, de la dépression, de l'angoisse, des crises de panique, tout ça. Puis les gens comme savent pas comment gérer ça, puis ça fait peur aux personnes. Puis ça, c'est soi-même épeurant. T'as comme peur de faire peur aux gens. Tu sais, c'est pas mal intense. Fait que cet aspect-là, de garder des choses à l'intérieur, de pas pouvoir les exprimer, ça me rejoint fortement. Là. Ça m'a comme vraiment ému. Là. C'est cette partie-là là, de sa bande dessinée, de qu'est-ce qu'elle raconte. Là. Une an grandie, elle parle un peu aussi des changements sociaux, culturels, comme quand elle a grandi, tout ça. Elle parle aussi beaucoup de la violence masculine. Tu sais, comment que la violence masculine est souvent comme pardonnée ou excusée ou ignorée, tout ça. Toutes ces choses-là, c'est intéressant. Puis elle vient sur le sujet aussi de la peintre Artemisia. Qui s'est faite agresser sexuellement, puis qu'elle a été en cours, là, à part de son procès. Là. Donc, ça rejoint l'autre bande dessinée que j'avais parlé dans l'épisode 3 sur la biographie d'Artemisia. Je trouvais ça intéressant qu'il y ait comme un retour de ça là-dedans. Mais bon, c'est. Ouais. Je dirais pas inévitable. C'est une histoire semblable là, qui parle de choses similaires, là, malheureusement. Là. magnifique. Fait qu'elle parle d'Artemisia. Elle reprend une de ses toiles en dessin. Et puis, donc, voilà, c'est ça. Il y a comme une grosse partie sur ta réflexion sur la violence, sur qu'est-ce qui est permis pour les hommes, qu'est-ce qui n'est pas permis pour les femmes, tout ça. Quand on parle aussi au niveau de l'humour, tu sais, comme quoi que l'humour des hommes est différent de l'humour des femmes, qu'est-ce qui est permis pour eux, là, je veux dire, comme en spectacle, comme pour les stand-up comiques, tout ça, comme au niveau de l'expression. En tout cas, il y a plein de réflexions intéressantes dans ce passage-là. Là. C'est un passage un peu plus comme essai documentaire. Là. Mais ça revient après ça au niveau personnel, là, dans son journal personnel, son autobiographie. Puis aussi, on a la conclusion, finalement, de l'enquête avec l'assassin, là, l'éventreur. Là. Puis, ben, naturellement, ils l'ont comme piégé juste par hasard, tu sais, en faisant un contrôle de voiture là, qui n'était pas du tout lié avec les meurtres. Puis après ça parle de comment, par après, quand ils ont regardé les portraits robots, comment, en tout cas, tu sais, qui ont passé à côté de certaines choses. Hein. Après ça, on parle aussi de la... comment que les hommes violents sont fascinants, puis comment ils sont glorifiés dans beaucoup d'œuvres littéraires. Puis on parle aussi de l'exploration du viol dans la littérature, dans l'art, tout ça, comment ça l'affecte, elle, quand elle voit des choses qui traitent de ça. Surtout quand c'est traité comme par des hommes. Puis, encore là, comme il y a comme un rapport avec une fascination pour la violence, tout ça. C'est ça aussi, je trouve que c'est intéressant comme passage. Là. Encore, il y a des dessins d'arbres qui sont vraiment magnifiques. Puis après ça, elle réfléchit aussi sur, tu sais, comment se reconstruire plus tard, là. Comment ne pas juste se définir comme victime, comment se définir comme survivante a aussi apporte certaines limitations, tu sais, ça crée aussi comme un cadre différent. Puis c'est sûr que c'est mieux de se voir comme survivante que comme victime, mais c'est quand même un cadre qui offre certaines limites ou qui fait qu'on... En tout cas, c'est... Fait qu'elle discute de tout ça. Puis, la fin de la BD, c'est vraiment touchant. C'est, elle dessine, c'est pour chaque page, un dessin par page, elle fait comme un portrait, tête-pied, des 13 victimes, elle les imagine comme en tant que femme âgée aujourd'hui, si elle serait encore vivante, c'est vraiment des beaux dessins, puis en tout cas, quand tu arrives à la fin, ça fait comme une espèce de sortie comme très émotionnelle, mais aussi qui fait comme un certain bien aussi, là, je dis que c'est comme il y a comme une certaine compassion, là, tu sais, comme il y a vraiment une compassion, c'est ça le mot. Fait que la fin, sortir de la BD là-dessus, c'est comme doux, triste, mais c'est intense aussi, mais c'est pas comme une tristesse qui fait mal, là, c'est comme une tristesse ouais, c'est rempli de compassion. Là. Fait que, en tout cas, c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup ému. Là. C'est sûr que... Attendez, je vais prendre une pause. OK, donc, pour revenir sur la BD, je dirais que si vous êtes capable d'aborder le thème, si vous êtes capable de lire là-dessus, je vous conseille la lecture. C'est une belle BD, puis c'est vraiment des réflexions fortes, intéressantes, tout ça, de quelqu'un qui a vécu des choses comme directement, puis fortement, puis la sensibilité de Una me beaucoup ému, puis son dessin est vraiment beau. Puis je trouve aussi que comment qu'elle utilise la bande dessinée, justement. Je trouve comment qu'elle utilise l'espace pour placer ses bulles, ses textes, tout ça. C'est très intéressant. C'est vraiment comme, je trouve, une bonne bande dessinée là, qui travaille sans se restreindre là, aux cases, là, tu sais, qui utilise beaucoup d'espace libre, sans cases, avec juste le dessin, le texte, tout ça, pour parler de sujets comme avec un aspect documentaire, un aspect biographie, autobiographique, je veux dire, puis un côté aussi essai, tout ça. En tout cas, je trouve que ça tout ça comme se mélange bien ensemble, puis aussi qu'il y a comme une alliance là, entre son discours, ses réflexions, sa sensibilité, son travail artistique, tout ça. Que je trouve que tout ça forme un tout qui fonctionne bien, puis qui est comme solide. Je trouve que en tant qu'objet artistique aussi, ça a comme son importance et sa valeur, je trouve que c'est bien. Puis c'est sûr qu'en tant que témoignage, puis en tant que réflexion aussi, ça a comme une valeur très bonne. Donc, si vous êtes capable d'apporter le sujet puis de lire ça, je vous conseille de lire, de peut-être le prendre en bibliothèque. Ça peut être une bonne option, puis de lire dans des moments que vous sentez bien, là, que vous sentez paisible, là, de prendre des petits morceaux, tu sais. Puis ça peut être bon aussi d'en discuter avec d'autres personnes. Ça aussi, ça peut faire du bien. Ça peut être un bon outil de discussion. Idéalement, quelqu'un d'autre peut-être aussi qui a lu la BD. Pas juste comme une personne qui a lu la BD qui explique à l'autre personne. Tu sais, genre, si les deux personnes ont lu la BD, ça pourrait être bien aussi pour en discuter. Donc, mes réflexions en tant que femme trans, comment dire, c'est certain que quand j'étais jeune, vu que j'étais identifiée comme un garçon, j'ai pas subi, j'ai pas comme internalisé toute cette enculturation, comment dire, toute cette ce regard porté sur être femme, là, sur la sexualité, tout ça, sur le désir, la séduction, la sexualisation du corps, ces choses-là, tu sais, j'ai été épargné là-dessus. Par contre, c'est certain que d'un autre côté, j'ai intégré d'autres choses très blessantes, beaucoup de transphobie, c'est beaucoup de malaise vis-à-vis mon corps, c'est beaucoup de, tu sais, il y a beaucoup d'autres choses comme difficiles là, que j'ai vécu là, pendant que j'étais jeune, de pas pouvoir être moi, puis tout ça, là, c'était mais c'est sûr que c'est différent, c'est certain là. Mais dès que j'ai fait mon coming out, dès que j'ai commencé à m'identifier publiquement en tant que femme, dès que j'ai eu comme une expression de genre féminine là, en public, là, immédiatement j'ai senti une différence. Là. C'était vraiment comme intense. C'était vraiment. Surtout au début. Là. Au début, c'est sûr que j'avais en plus la peur de sortir en tant que femme trans, en tant que personne trans. Là. Ça, maintenant, j'ai beaucoup moins cette inquiétude-là, là, mais genre, c'est sûr qu'en tant que femme, je suis tout le temps comme quand même sur mes gardes, tu sais, alerte, faire attention, être prudente, être consciente de qui est autour de moi, de l'espace entre moi et les gens, des affaires comme ça, mais pas tout le temps. C'est sûr que c'est à différents niveaux, là, tu sais. Souvent, quand je suis à l'aise, tout ça, ces choses-là deviennent comme un programme qui fonctionne en arrière-plan, mais qui est quand même présent, là. Puis qui peut comme se réactiver là, subitement, tu sais. Tandis que, supposons, quand j'étais dans le placard profond, quand j'étais comme en déni, là, tu sais, j'ai eu des époques de déni, c'est sûr, de mon identité, là, plus jeune. Dans ces moments-là, quand je m'identifiais comme homme et que je ne pensais pas d'autre chose, là, quand j'étais dans des milieux publics, là, quand j'étais dans des lieux publics, quand j'étais dans le transport en commun, tout ça, c'est, être dans le métro, c'est comme être dans mon salon. Là, c'était comme, tu sais, c'était comme vraiment comme être chez soi. Là, j'avais pas du tout cette conscience-là C'était vraiment pas pareil, là. À moins, bien sûr, là, qu'il y ait quelqu'un de vraiment inquiétant dans le métro, là, qu'il y ait comme une personne là, ivre, puis qui fait des menaces, là, quelque chose comme ça, d'évident, là. Mais sinon, tu sais, en général, c'était même pas comme quelque chose que j'avais comme à l'esprit, là. Tandis que ça, c'est vraiment comme différent, là. Aujourd'hui, tu sais, maintenant, j'ai comme un rapport vraiment différent avec les lieux publics comparé à avant. C'est immédiatement, là, dès que tu commences à t'afficher, là, en tant que femme, là, publiquement, à être, dès qu'on peut t'identifier comme femme, tout ça, c'est ton rapport au lieu public change, c'est certain. Ton rapport aux étrangers, aux personnes que tu connais pas, que tu rencontres comme ça, c'est différent aussi. Hein. Tu remarques je pense que les femmes trans remarquent beaucoup ça, parce que on a comme vécu un peu un morceau des deux côtés, nous, tu sais. Comparé ça quand j'étais dans la garde-robe, c'était pas du tout pareil. C'est un gros privilège qu'on parle. Les femmes trans, quand on fait notre coming out, quand on se met à se présenter en tant que soi-même, en tant que femme. Fait que c'est sûr que toutes ces choses-là, ça. Ça m'a fait beaucoup réfléchir, puis ça me donne beaucoup d'émotions, j'ai beaucoup d'empathie envers toutes ces choses-là. Là, tu vois, je suis comme débalancé, j'arrive pas à en parler de manière rationnelle. Je suis comme en train de gérer mes émotions en même temps que j'essaie de vous en parler. Fait que c'est pas évident, là, t'sais. J'aimerais mieux en parler avec quelqu'un d'autre, t'sais. J'aimerais ça en discuter avec un groupe, là, c'est pour ça, un mélange de femmes trans, cis, genre, signé, puis des femmes qui ont aussi différents niveaux d'expression de leur féminité, là, t'sais. Parce que même si t'as l'air comme super butch, tu te fais quand même identifier comme femme, puis... Souvent, puis tu subis la même intimidation que si t'étais super féminin et délicate. Il n'y a pas de. Il n'y a pas d'exception là, là-dessus, c'est certain. Bon, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi. Fait que je vais arrêter le podcast là-dessus. Fait que c'est une bande dessinée qui m'a beaucoup touché une heure, comme je disais. Puis surtout que son dessin est vraiment personnel, là, il est vraiment comme... On sent vraiment les émotions, là, puis c'est vraiment comme minimal, c'est vraiment comme subtil, c'est vraiment comme juste des personnages très simples, mais je trouve qu'il y a tellement beaucoup d'émotions qui traversent. Puis surtout quand elle utilise les aquarelles, on sent toute la douceur, puis la vulnérabilité, puis en tout cas, c'est... Ah ouais. C'est comme autobiographie, là. C'est, je pense que c'est une des autobiographies que j'ai lues en bande dessinée qui m'a vraiment le plus remué, là. De loin. Là. Donc, c'est ça. C'est mon épisode sur l'une d'elles de Una. Je vais vous laisser là-dessus. Si vous avez déjà lu la BD et que vous voulez en discuter, je vous invite à me contacter. J'aimerais ça en discuter avec quelqu'un d'autre qui l'a lu. Je pense que ça me ferait du bien. Ou si vous avez des commentaires là-dessus aussi, vous pouvez m'écrire. Vous n'êtes pas obligé de le faire par voix, là, parce que je sais que par voix, ça peut être intimidant pour certains ou pour certaines. Surtout, je sais que pour les personnes trans, c'est pas facile des fois là, d'oser se commettre pour de parler en vocal, de parler d'enregistrer sa voix. Ça m'a pris beaucoup de temps. En tout cas, si vous avez communiqué avec moi, ce serait apprécié. Là, en tout cas, c'est des choses que j'aimerais peut-être rediscuter, là, mais c'est ça, c'est dur de faire un podcast à deux avec Anchor, la manière que ça fonctionne. C'est vraiment fait pour du podcast solo. Là. Ah, ouais. Donc, prochain épisode, je vais retourner vers des bandes dessinées un peu plus légères. un peu plus. La prochaine bande dessinée que je vais discuter de. Ah, Colin, j'ai oublié le titre. C'est Le Prince et la Couturière, je crois, le titre. C'est une bande dessinée d'une autrice qui a fait un BD super intéressant avant que j'avais déjà lu sur les jeux en ligne, le multiplayer, là, comme World of Warcraft. Tout ça, elle raconte l'histoire d'une fille qui joue là-dedans un jeu puis qui aura se fait comme un ami en ligne. Puis leur relation, tout ça. En tout cas, c'est intéressant. Puis. Elle a fait une BD, c'est une fiction, ça se passe dans à l'époque victorienne peut-être, quelque chose comme ça. Puis c'est un prince qui est trans, puis il y a comme une amie couturière qui lui fait des robes, puis tout ça, puis là il ose se présenter en tant que femme, tout ça, au travers de tout ça. Ben, le dessin est vraiment chouette, tout ça, ça a l'air intéressant, j'ai hâte de voir si. C'est une bonne représentation positive, j'ai l'impression qu'assez oui, mais c'est quand même écrit par une personne de ce genre, donc je sais pas. C'est sûr que j'ai peut-être une petite méfiance, ou un petit, je sais pas trop, tu sais, comme j'étais comme un peu sur mes gardes, mais bon, j'ai l'impression que ça peut être quand même positif. Je pense que j'ai hâte de le lire, je vais vous en parler. Donc, je vais faire ça. Et puis, j'ai aussi fait la réflexion l'autre jour. J'ai fait comme, ah, tu sais, je parle tant de trucs trans, mais j'ai pas encore fait un épisode sur une bande dessinée écrite par une autrice femme transgenre ou même par une personne transgenre. Ça pourrait être un homme transgenre. En tout cas, mais je connais. Je connais sur Facebook puis Instagram Axel Lenoir qui fait comme. La BD, qui est une autrice transgenre. Fait que je veux lire ses BD. Je vais vous en parler aussi. Je vais lire L'Esprit du camp. C'est la BD qui m'est tombée là, à la bibliothèque là, entre les mains. Fait que je c'est deux épisodes. Pas deux épisodes, mais ouais, c'est deux volumes. Je vais discuter de ça. Donc, ce serait mes deux prochains épisodes qui s'en viennent. OK, on a déjà assez parlé. Ça fait. OK. Bonne nuit tout le monde. Au revoir. Puis merci d'écouter mon podcast. Ça me fait du bien de faire ça, ce podcast-là. Je suis contente de faire ce podcast-là. OK, bon, j'arrête. Bye.